Joël, c'est à toi, mon ami.
Ça va bien ce matin? Vous êtes en forme? Qui aurait continué à louer le Seigneur? Il me semble que c'était bon, hein? C'était bien parti. On aurait pris une liste de chants, de 9 chants ce matin. Amen, Dieu est bon, j'espère que vous êtes en forme ce matin. On va aborder des sujets très intéressants. Et je veux juste prier quelques instants. Je sens vraiment en présence de Dieu. On fait-tu une réunion? Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ta présence, Seigneur Dieu. C'est toi qu'on aime, Seigneur, puis notre priorité, c'est toi, Jésus. Notre priorité, c'est toi, Seigneur Père Céleste. C'est qui tu es, c'est ta présence, Seigneur Dieu. Et même si on apprend, Seigneur, et on se forme comment, Seigneur, être un meilleur leader pour toi, Seigneur, on sait, Seigneur Dieu, que c'est ton amour qui compte, Seigneur Dieu. Et Père, on veut juste accepter ton amour, Seigneur, ce matin. Qu'on ne soit pas des leaders, Seigneur, de performance, Seigneur, mais qu'on soit des leaders, Seigneur, qui sont sécurs dans ton amour, Jésus. Formés au plus profond de ton être, Seigneur Dieu. Alors, bénis ton peuple ce matin. Amen. Amen. Alors, on va parler des priorités. C'est un sujet qui est très terre à terre, mais en même temps qui est vraiment important. Parce que s'il y a une dimension de nos vies qui pourrait nous éloigner du but que Dieu a pour nous en tant que leader, c'est d'avoir de la difficulté à prendre des décisions et à avoir des priorités dans nos vies. Et un jour, il y avait deux hommes qui étaient à la pêche sur le bord d'un pont. Et je ris déjà, désolé. Moi, je ris déjà. Ils étaient à la pêche sur le bord d'un pont et lançaient leur ligne à l'eau. Et tout d'un coup, il y a un cortège funèbre. Ça se dit bien ici, un cortège funèbre qui passe sur le pont. Et un des hommes met sa ligne tout doucement sur le quai, se lève debout, descend son chapeau et le met sur son cœur et laisse en silence pour quelques instants. Et quand le cortège a fini, il se rassoit, prend sa ligne, la relance à l'eau. Et son ami, il dit, « Wow! » Il dit, « Je suis vraiment impressionné. Je ne pensais pas que tu étais un homme comme ça. » Puis l'autre homme répond, il dit, « Écoute, c'est la moindre des choses. Après tout, j'ai quand même été marié 40 ans avec cette femme-là. » Tout... Il y avait un manque de priorité cette journée-là, je crois, dans la vie dans la vie de cet homme. Un jour, il y a un Américain qui arrive à Paris. Robert n'est pas là aujourd'hui. OK. Il y a un Américain qui arrive à Paris et il vient de déménager. Il s'achète une nouvelle Porsche incroyable. C'est une belle Porsche, vous savez, les belles autos Porsche. Et il y a quand même beaucoup de trafic à Paris et beaucoup d'autos, de bicyclettes qui conduit un peu fou. Et il roule sa belle porte de Porsche et se fait arracher la porte de Porsche par un auto qui passe, par une belle petite Peugeot Mégane. Et non, c'est une Renault sans Mégane. Il se fait arracher sa porte. Il commence à chialer. Il commence à critiquer en anglais. Puis tout frustré. Et la police française arrive. Puis elle dit, monsieur, vous n'avez pas les bonnes priorités à bonne place. Pourquoi vous chialez? Est-ce que vous n'êtes même pas aperçu que dans le processus, vous êtes fait arracher votre bras? Et le monsieur regarde, il regarde et il dit, « Oh non, ma Rolex! » Un autre manque de priorité. C'est juste pour nous faire rire ce matin en commençant. J'en ai plus, c'est correct, c'est fini. Mais juste pour nous faire réaliser comment c'est important d'avoir les bonnes priorités à la bonne place. Je crois que vous pouvez écrire ça. Tout le monde finit par arriver quelque part dans la vie, mais peu de gens y arrivent avec précision ou intention. Tout le monde finit par arriver quelque part. Tout le monde va faire quelque chose dans la vie. Tout le monde va accomplir quelque chose, mais il y a peu de gens qui vont y arriver avec précision ou avec intention. Mon but, mon rêve pour ma vie, c'est d'être au centre du cœur de Dieu pour moi. Est-ce que c'est votre but aussi ce matin? Notre but, c'est d'être le plus précis avec ce que Dieu a planifié d'avance pour moi, afin que je puisse les accomplir. Amen. Je veux pas vivre loin, même Dieu. Dieu parle de précision. Il parle d'intention. Il dit, large est le chemin Et large est la porte qui mène à la perdition, mais étroit est la porte et le chemin qui mène au salut. Amen. Et Dieu a de la précision. Et je crois pour être le plus précis possible dans ce que Dieu a pour nous, afin que notre vie n'arrive pas à gauche, à droite, ou loin de ce que Dieu avait planifié, il faut être capable de prioriser ce que Dieu a vraiment pour nous. Sinon, on s'éparpille. Et quand on s'éparpille, ça se dit-tu s'éparpille? On s'éparpille peut-être? Dis-tu mieux s'éparpille? Non? Les deux mots fonctionnent finalement. Alors, si on s'éparpille sur le plan de notre vie, je crois qu'on va être de moins en moins efficace. Il faut être capable de viser la cible de Dieu. Et pour viser la cible de Dieu, il faut des fois faire des choses et des fois arrêter de faire des choses. Pour vraiment être précis. Il y a un homme aux Olympiques, un Américain, il y a quelques années, il était dans la compétition de tir à carabine intérieure. Et c'était le favori. Il avait besoin, pour viser la cible, pour avoir la médaille d'or, il avait seulement besoin d'un score de 7.1. Seulement un score de 7.1. Et ces hommes-là sont vraiment spéciaux. Ils sont capables d'arrêter presque leur cœur de battre pour se concentrer. Ils vraiment se concentraient sur sa cible. Ils savaient qu'il y avait juste 7.1. C'était un coup facile. Mais s'il l'avait, c'est la médaille d'or automatique. Ils se concentrent. Ils arrêtent de respirer. Bang! Tire! Sur la cible, 8.2. Réjouissance. Yes, on a gagné la médaille d'or, mais pour quelques instants, il y avait une joie incroyable, jusqu'à temps que tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est en cinquième position. Le seul problème, c'est que même s'il a eu 8.2, il a visé la cible de son voisin. Et il a manqué la médaille d'or à cause de ça. C'est une histoire vraie, là. Je ne vous raconte pas des blagues. C'est la même chose pour nos vies. Je crois que Dieu veut nous emmener dans une dimension de précision pour nous, une dimension déguisée qui nous sommes, afin que Dieu puisse nous élancer vraiment où que lui veut nous envoyer. Et pour ça, frères et sœurs, il faut vraiment être capable de prendre des décisions, être capable de prioriser ce qui est vraiment important et ce qu'on croit à ce que Dieu a mis dans votre vie. Est-ce que vous dites amen ce matin? Je peux-tu avoir une bouteille d'eau? Il y a des versets qui sont vraiment intéressants, qui nous parlent justement de ces deux sujets. Matthieu 6, 33 dit ceci, « Cherchez, vous le savez, je suis sûr, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. » Je crois que Dieu met une priorité, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste. Il parle des besoins naturels, il parle du manger, du boire, du vêtir, toutes ces choses-là, toutes les ressources nécessaires pour accomplir le ministère vont venir avec le fait que vous priorisez le royaume des cieux. Amen. Alors, c'est vraiment important, c'est très biblique. Ça semble des fois ridicule de dire, il faut faire des priorités, il faut faire une liste de choses à faire. Ça semble banal. Au contraire, c'est vraiment important afin de ne pas faire ce qui n'est pas voulu de la part de Dieu pour notre vie. Deutéronome 30 dit ceci, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Et Dieu dit, « Choisis la vie. » Il faut prendre des choix. En tant que leader, il faut prendre des choix. Êtes-vous d'accord qu'il y a des choix qui sont très, très difficiles à prendre par moment? Confronter des gens, parler à des gens, engager des gens, désengager des gens. C'est pas facile. Il y a des choix qui sont très difficiles parce que le défi qu'on a en plus comme pasteur, c'est qu'on veut aimer les gens. Mais il faut être capable de prendre des choix, emmener l'Église dans une direction ou dans une autre. Alors, c'est vraiment important de découvrir cette dimension-là dans nos vies. Moi, pourquoi je veux être capable de prendre des choix? Moi, en tant que pasteur, on a une petite Église que quand je suis arrivé, là, 6 mois, on était environ 80-90 personnes. Et 6 mois plus tard, on est déjà rendu 140-150. Alors, vraiment une croissance incroyable. Et une de mes priorités présentement, c'est de m'engager une assistante administrative. Parce que moi, je ne veux pas chasser les écureuils, je veux chasser les éléphants. Et j'aime bien les écureuils, ils sont cute, c'est le fun d'essayer de les nourrir, mais essaye de les attraper après, par exemple. Ça court partout, ça monte dans les arbres, il n'y a rien à faire. Pourtant, on a tous rêvé un jour de caresser la queue d'un écureuil. Vous êtes d'accord avec ça? Qui en a vraiment caressé une, à moins qu'il soit sous les somnifères? C'est difficile. Mais moi, je ne veux pas, j'aime, je pourrais. L'Église peut me payer pour chasser les écureuils, répondre au téléphone. Envoyer des courriels, je peux le faire. Si vous voulez m'engager pour faire ça, votre église peut vous engager pour faire ça, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. La priorité que Dieu a mise sur ma vie, c'est partager, c'est enseigner la parole de Dieu, c'est former des leaders. Alors, je vais être capable de prendre des décisions, de prioriser, mettre des gens en place, on va en parler plus en détail, afin d'accomplir le plan de Dieu. Moi, je veux les éléphants. Les éléphants, c'est la vision de Dieu pour l'Église. Les éléphants, c'est le rêve de Dieu pour votre vie. C'est ça que je veux aller. Et je vais être capable de mettre des gens en place qui vont faire les choses que je ne dois pas faire, même si je suis capable de les faire. L'idée, c'est de garder le grand plan de notre esprit, dans notre esprit, et de nous laisser guider par les priorités divines et tirer pleinement profit du temps à notre disposition. Éphésiens 5, 15, 17, ceci, il dit, regardez, dans le fond, il dit trois choses. Regarde à la manière dont tu vis. Observe ta vie présentement. Est-ce que tu vis, le mot, je crois, c'est circonspection, ça se dit, ça. Est-ce que tu vis d'une façon planifiée? Est-ce que tu vis d'une... Le mot circonspection veut dire précisément. Est-ce que ta vie est précise présentement? Alors, la parole de Dieu nous enseigne de faire trois choses. Regarde à ta vie. Est-ce que tu es précis dans ce que tu fais? Est-ce que c'est prioritaire ce que tu fais? Deuxième chose, il est en train de dire, rachète le temps. Regarde si ta vie vit précisément, ensuite rachète le temps. Mets des priorités. Vous savez qu'on aurait, des fois, on aurait besoin de plus que 24 heures dans une journée. Hein? Des fois, savez-vous pourquoi qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée? C'est parce qu'on perd notre temps. Et le temps, c'est une valeur qui est pas... Un temps qui est perdu est très dur à retrouver. Mais il faut faire vraiment priorité de bien gérer notre temps. Et troisième chose, il est en train de dire, à partir de là, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Alors, regarde à ta vie. Est-ce que ta vie vise les priorités? Oui, non. Rachète le temps, utilise bien ton temps. Pourquoi? Pour que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu et que tu puisses l'accomplir. Amen. C'est tout un verset, ça fait un bon message. Amen. Quand je vous ai parlé un peu de mon burn-out dernièrement, il y a 5 ans, et pour moi, c'était vraiment, en anglais, on dit un wake-up call, un moment de réveil dans ma vie où j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire ce que je faisais, je ne pouvais plus le faire de la manière dont je le faisais parce que mon corps n'était pas capable de le prendre. Et j'ai dû me reposer, faire un pas en arrière, j'ai dû enlever des choses de ma vie, j'ai dû préciser ma vie sur qu'est-ce qui était vraiment important. Et le rêve que Dieu m'a donné est devenu la priorité dans ma vie. Et quand tu fais le rêve de Dieu, tu as la force, tu as la sagesse, tu as l'onction pour le faire. Alors, il faut vraiment être capable de discerner c'est quoi le rêve de Dieu pour votre vie et rentrer dans cette dimension-là. Parce que c'est votre priorité. On peut faire tout. Les leaders, là, on est développés à essayer de tout faire. Et la pensée aussi, c'est que le leader devrait être bon à tout faire. Puis ça, je trouve que c'est un mythe. C'est faux. On ne devrait pas rentrer dans une dimension où on devrait tout faire. On devrait faire ce que Dieu nous appelle vraiment et d'élever les autres autour de nous afin qu'ils fassent ce qu'eux aussi sont appelés à faire. C'est comme ça qu'on devient le corps de Christ, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on devient le corps de Christ. Amen. Salomon est un cas d'étude vraiment important pour vraiment découvrir c'est quoi l'idée de la priorité. Imaginez-vous, Salomon rentre dans la présence de Dieu. Il va dans sa présence. Il fait le sacrifice de 1000 vaches. C'est beaucoup, ça. Et Dieu, dans sa présence, lui dit, « Salomon, pose-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. » Et je vais le faire. Qui aimerait ça, rentrer dans la présence de Dieu et Dieu vous dit, « Demande-moi ce que tu veux, Joël. Demande-moi ce que tu veux, Philippe. Je vais le faire. » C'est simple, ça vous prend 1000 vaches. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il rentre dans la présence de Dieu. Et Salomon aurait pu choisir plein de choses. Tout était disponible à lui. Et il a demandé une chose. Il a dit, « Seigneur, donne-moi la sagesse pour gérer ton peuple. » Wow! Et même Dieu était impressionné. Dieu a trouvé ça vraiment génial qu'il demande la sagesse. Salomon aurait pu demander plein de choses. Salomon aurait pu demander des choses qui sont faciles. « Ah, Dieu, aide-moi pour demain, j'ai un examen de mathématiques pour devenir roi. » Pour être un meilleur roi. Ou « Seigneur, aide-moi demain, j'ai un paiement d'auto à faire. » C'est correct, c'est des demandes qui sont très légitimes. Mais quand Dieu te demande « Demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner », il faut demander avec priorité, frères et sœurs. Il faut demander avec priorité. Salomon aurait pu demander ce qui est plaisant. « Ah, Seigneur, donne-moi d'or, donne-moi que mon territoire grandit, ça pourrait être plaisant. Salomon aurait pu demander quelque chose d'urgent. Oh Seigneur, Dieu, aide-moi à construire le temple. Je sais pas trop comment on peut construire un temple. Je sais pas trop comment bâtir une église, mais donne-moi, c'était urgent, il devait le faire. Donne-moi comment le faire. Il aurait pu demander quelque chose de difficile, de quelque chose qu'il aime pas faire. Mais Salomon a choisi la sagesse. Et Dieu a dit, à cause que tu as choisi ça, je vais te donner tout le reste. Moi, j'aime ça. Dieu est en train de me dire, si je priorise, il va me donner le reste. Si j'essaie d'avoir tout le reste, je n'aurai pas ce qui est prioritaire. Mais si je priorise sur Dieu, si je priorise sur la vision de Dieu devant moi, Dieu va me donner le reste. Qui veut le reste? Moi, je veux le reste. Si je vise les richesses, je risque de manquer le bateau pour Dieu. Mais si je vise le plan de Dieu, Dieu va me donner les ressources nécessaires. Parce que Dieu veut accomplir les choses. Dieu aime le résultat, frère et sœur. Est-ce que vous croyez que Dieu aime le résultat? Dieu aime le résultat. Dieu veut que le ciel soit rempli d'âmes. Dieu aime le résultat. Dieu aime voir les fruits dans notre vie. Et pour ça, il faut faire nos priorités. J'ai conté une histoire cette semaine à Dijon. Il y a deux hommes qui meurent en même temps, un pasteur et un chauffeur de taxi. Et ils arrivent au... Et c'est Pierre qui les reçoit. Et il dit aux deux hommes, il dit, ben tant qu'arrivent ensemble, on va faire le tour, on va vous montrer vos demeures au ciel. Et il arrive avec le chauffeur de taxi, puis il arrive devant une grande maison, une belle bâtisse, piscine, fontaine, palmier, tout le kit, une belle grande maison, quatre salles de bain, toute la grande affaire. Et le chauffeur de taxi est vraiment excité, puis Pierre dit, hey, ça c'est ta maison, viens, vas-y, prends possession. Et le pasteur se dit en lui-même, il dit, wow! Il dit, imagine-toi, c'est un chauffeur de taxi, une grande maison comme ça au ciel. Imagine, je peux pas m'imaginer ce que moi je vais avoir. Puis le Pierre emmène le pasteur avec lui, puis il arrive devant une petite cabane en bois avec seulement une chambre. Et le pasteur, il dit, c'est-tu ma maison ça? Et Pierre, il dit, oui, c'est ta maison. C'est pas possible, c'est impossible. Commence à revendiquer pour quelque chose de mieux. Il dit, c'est impossible. Il dit, oui. Il dit, comment ça? Bien, il dit, c'est parce que toi, quand tu étais sur terre, quand tu prêchais la parole, les gens s'endormaient. Il dit, tandis que le chauffeur de taxi, lui, quand il conduisait les gens à leur destination, il réussissait à les faire prier dans son auto. Peu importe notre position, Seigneur aime les résultats, frères et sœurs. On ne veut pas qu'on vise les résultats, on veut une relation avec lui. Mais Dieu, de notre relation avec lui, il y a du résultat qui va couler. Amen. Parce que Dieu nous a dit, écrivez ceci, les priorités et les prises de décision conditionnent non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui sont dans notre sillage. Vous comprenez ce mot-là? Non seulement les prises de décision conditionnent notre vie, dirigent notre vie, nous enlignent, mais aussi vous allez enligner derrière vous plein de gens qui vont vous suivre. Alors c'est important, il y a une responsabilité à la prise de décision. Parce que Dieu récompense les fruits et non l'activité, frères et sœurs. Dieu récompense les fruits et non l'activité. On peut faire plein d'activités, on va en parler tantôt. Mais on peut travailler fort, mais Dieu récompense l'activité et non les fruits. L'être humain a tendance, les fruits. Ouais? C'est quoi vous comprenez? Hein? J'ai dit l'inverse? Ah, excusez. Dieu récompense les fruits et non l'activité. C'est drôle, en tant qu'être humain, quand on est perdu, on a tendance à courir plus vite. Au lieu arrêter, poser des questions et courir dans la bonne direction. Et je crois que ça fait partie de la priorité. OK, on a un petit test pour commencer. Alors, on va faire un petit test. Ça va être vraiment intéressant. Il y a 12 questions. Je les lis une par une, puis vous répondez, OK? Parce que ça va déterminer, c'est juste un petit test pour voir est-ce que finalement dans votre vie, il y a de la priorité ou il y a du travail à faire. Si vous devriez prioriser de mettre des priorités. 1. Planifiez-vous votre travail de demain dès aujourd'hui? Répondez oui ou non. Cochez oui, cochez non. Planifiez-vous votre travail de demain dès aujourd'hui? Là, soyez honnête, on a parlé du cœur intègre hier, là. OK? Si vous avez 100%, c'est soit que vous êtes vraiment, vraiment bon ou soit qu'il y a un manque d'intégrité quelque part, OK? Je ne veux pas juger personne, je veux juste avertir. Planifiez-vous votre travail de demain? Deuxième question, exécutez-vous vos tâches routinières pendant les moments où votre énergie est faible? Et vos tâches créatives au moment où vous êtes plein d'énergie. Je sais pas pour vous, mais moi, mon meilleure énergie, c'est le matin. Alors, est-ce que les choses les plus importantes, le faites-vous quand votre énergie est bonne ou vous le faites quand vous êtes rendu fatigué à la fin de la journée et il n'y a plus rien qui avance? 3. Est-ce que vous effectuez les tâches moins plaisantes tout de suite ou vous mettez les tâches plaisantes tout de suite? Envoyer des courriels, des choses comme ça, faire des PowerPoint, choses faciles, choses plaisantes. Est-ce que vous êtes capable de faire les choses moins pesantes tout de suite? Est-ce que vous visualisez dès le matin le travail de votre journée? Est-ce que le matin, vous êtes capable de vous asseoir et dire, je suis capable de visualiser qu'est-ce que je fais dans ma journée? Oui? Non. 5. Êtes-vous capable de gérer ceux qui vous volent votre temps? Un coup de téléphone, et le petit monsieur ou la petite madame veut vous parler pendant une heure et demie de temps. Et vous savez que vous avez une réunion dans une heure. Est-ce que vous êtes capable de gérer ces situations-là? Êtes-vous capable de dire non? Savez-vous planifier votre temps, c'est-à-dire occasionnellement noter combien de temps il vous faut pour accomplir chaque tâche de votre journée? Si vous passez 4 heures à préparer les annonces de la semaine, c'est pas bon. Même si c'est le fun. Savez-vous planifier votre temps? 6, 7. Si vous promettez de faire quelque chose à temps, essayez-vous toujours de tenir parole? Je dis, je vais faire ça. Est-ce que vous rentrez dans votre temps? Est-ce que vous l'accomplissez? Est-ce que vous tenez parole? 8. Mettez-vous à part un temps chaque jour pour réfléchir, créer et planifier? Bonne question. 9. Votre poste de travail est-il rangé? Votre bureau est-il rangé? Trouvez-vous ce dont vous avez besoin sans perdre de temps? Vous cherchez un crayon pendant 10 minutes de temps? Voyons, sont où mes crayons? 10. Avez-vous un système efficace d'organisation et de classification où tous vos papiers sont sur la même pile? Êtes-vous organisé? 11. Savez-vous comment choisir vos tâches les plus productives? Oui ou non? Et 12. Savez-vous précisément quelles sont vos priorités? Numéro 1. Alors, faites le calcul. Si vous avez répondu oui à 10 ou 12 questions, vous êtes vraiment bon. Si vous avez répondu à 7 ou 11 questions, vous êtes à la bonne place. Et si vous avez répondu à 6 questions au moins, bien peut-être que vous avez de la misère à gérer votre temps. Alors, calculez ça rapidement. Voir vos oui et vos non. C'est pas un référendum, là. Vous finissez de calculer déjà? C'est quand même pas un calcul très, très scientifique, là. juste pour voir, qui a 10 à 12 oui pour le fun? Oh! Deux personnes. Qui dit mieux? Qui a 13? Non. Celui-là, il y a un petit peu avec cette zèle. Qui a entre 7 et 12 pour le fun? Vingtaine peut-être de personnes. Qui est entre 0 et 6? Wow! Wow! Alors, mettons que la moyenne est 5-6 à peu près, 6-7. Mettons que la moyenne est 6-7. Je pense que ça vient juste de nous prouver qu'un petit test, qu'il y a du travail à faire. Il y a de l'espace, là. Entre 6 et 12, il y a de l'espace. Alors, des fois, ça semble ridicule comme sujet, mais c'est vraiment important. Ça va faire de vous, et on va en parler, entre un leader qui accomplit 3 fois plus avec le même temps qu'il a, ou un leader qui fait seulement ce qu'il fait parce qu'il n'a pas priorisé. Qui veut être productif? Moi, je veux être productif. Vous savez, la priorité, c'est très biblique. Quelle était la priorité de Jésus? La prière, frères et sœurs. Jésus, le matin, il laissait ses disciples dormir et lui, il allait prier. Même si ça disait que tard le soir, il allait passer la nuit dans la présence de Dieu. Il allait jeûner et prier. La priorité de Jésus, c'était la prière. Notre priorité, ça devrait être la prière. Est-ce que vous planifiez de la prière dans votre journée? Est-ce que vous la planifiez? Moi, j'essaie de la planifier de 7h30 à 9h le matin. Je suis tout seul à l'église. De 7h30 à 9h, je suis dans la présence de Dieu. On a fait une petite chambre de prière à l'église. Je rentre là, je mets un CD, je reste dans la présence de Dieu. Il faut que je le planifie. Si je ne le planifie pas, il y a quelqu'un qui va venir me le voler. Il y a quelqu'un qui va venir me le voler. Quelqu'un qui va vouloir déjeuner. Il y a quelqu'un qui va vouloir me rencontrer. Il y a quelqu'un qui va vouloir appeler. Si je ne dis pas ça, c'est bloqué. C'est pour Dieu. Il n'y a rien qui va me le voler. C'est sûr que je vais le vivre. C'est sûr que je vais le vivre à 80-90%. Pourquoi? Parce que je l'ai planifié. Notre prière devrait être la première priorité avec Dieu. Quelle est la priorité du chrétien? Je crois que c'est la présence de Dieu. Je crois que c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que même ils font l'image entre Marthe et Marie. Et Marthe était affairée à tout faire. Hein? Parce qu'il fallait que les choses avancent. Il faut que l'église avance. Il fallait nettoyer l'église. Il fallait faire des repas. Il y a plein de projets dans l'église. Il y a plein de choses à faire. Et Marie, elle était assise au pied de Jésus en train de le contempler. Et Marthe, elle était frustrée. À un moment donné, elle dit, ben c'est ça. Pourquoi vient pas m'aider? Et Jésus a dit, Marthe, c'est correct ce que tu fais, mais Marie, elle a choisi pas la bonne part, la meilleure part. C'est dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en grandissant avec le Seigneur, j'ai réalisé que je peux faire plein de choses sans l'onction de Dieu, et je vais m'épuiser, et je vais prioriser une demi-heure dans la présence de Dieu, à chercher l'onction et la révélation de Dieu sur ma vie. Et mon travail, après, va être 3 fois plus efficace ou 4 fois plus efficace. Pourquoi? Parce que je le fais à partir de la présence de Dieu. C'est quoi que l'Esprit de Dieu dit à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse? Il dit, je suis vraiment fier de toi. Tu travailles fort. Tu as des projets. Tu rencontres les besoins des gens, tu aides les pauvres. Mais si j'ai une chose contre toi, c'est quoi? Tu as perdu ton premier amour. Wow! Ça fait mal. Seigneur, on fait plein de choses pour toi. Mais il y a des gens qui vont se présenter au ciel. Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. Puis Dieu va dire quoi? Désolé, mais je ne te connais pas. Wow! Moi, je ne veux pas arriver au ciel et Dieu ne me connaisse pas. Je ne vais pas arriver au ciel et arriver à un pedigree de choses que j'ai accomplies pour Dieu. Je veux que Dieu arrive, j'arrive au ciel et Dieu voit, hey, on a été amis, on a une communion. C'est ça la priorité du chrétien. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Quelle est la priorité des leaders d'église? Je pense que Paul en a parlé un petit peu, mais. Il faut vraiment établir, je ne sais pas pour vous, mais nous, au Québec, il y a tellement de leaders qui ont négligé les vraies priorités en tant que leader. Un, Dieu, après ton épouse et tes enfants, et ensuite le ministère. Et tous les qui menaient le ministère avant la famille, pour moi, fait une grave erreur. Une grave erreur, un manque de les vraies priorités. Parce que Dieu est un Dieu de relations en premier. Et la première relation, c'est lui. La deuxième, c'est mon épouse. Si j'ai plus d'épouse, j'ai plus de ministère, frère et sœur. Si j'ai plus d'épouse, j'ai plus de ministère. Et malheureusement, dans ma famille, j'ai un exemple très, très proche. Mon beau-père et ma belle-mère se sont divorcés après 25 ans de mariage, après 17 ans de ministère dans l'Église. C'était des leaders très respectés dans la province du Québec. Ils avaient la deuxième plus grosse Église dans les années 80 qui était pasteur à ce moment-là. Et un jour, à cause que les priorités étaient plus l'Église, même si on marchait et cachait plein de choses, à un moment donné, la coupure s'est installée. Et c'est triste, et ça l'a détruit ma femme. À l'âge de 21 ans, alors, on s'est mariés, j'avais 22, elle avait 20, et c'est arrivé, elle avait 21 ans. Elle était quand même assez âgée, là. Et mon épouse est arrivée un matin, on se parlait, puis elle a dit, Joël, elle dit, je veux te divorcer. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Mais si on est pour vivre 20 ans, 15 ans ensemble, avoir des enfants, puis un jour, arriver au même point que mes parents sont arrivés, on est tous bien de lâcher ça tout de suite. Elle était blessée. Vous comprenez, elle parlait de sa douleur. Pas parce qu'elle ne m'aimait plus, là. Elle parlait de sa douleur, elle parlait de ses peines, elle parlait de voir des gens qui étaient respectés tout d'un coup être anéantis. J'ai dit, chérie, je ne sais pas qu'est-ce qui va avec nous, mais je sais une chose, si on s'aime à chaque matin, puis on se lève, puis on dit, aujourd'hui, on va s'aimer, on va être capable de faire toute notre vie ensemble. Et si on garde nos priorités comme il faut. La phrase que j'ai trouvée le plus difficile d'entendre, plutôt qui m'a été répétée, c'est que ma belle-mère a dit à mon beau-père, elle a dit, tu me trompes, puis celle avec qui tu me trompes, c'est l'Église. Je vais vous poser la question. Homme de Dieu, trompez-vous vos épouses avec l'Église? Ou c'est votre épouse qui est la prunelle de vos yeux? Parce que Dieu va s'occuper de son Église, frères et sœurs. Mais Dieu me donne le mandat de m'occuper de ma bien-aimée. J'ai besoin d'entendre des hommes dire Amen.
Amen.
Amen. J'ai besoin des hommes dire « Amen » avec un petit peu plus de conviction. Ça. J'ai besoin d'entendre des femmes dire « Amen » aussi. Ah, il y a de la conviction, là, je le savais. Je le savais. Il y a un cri du cœur là, qui vient de sortir. Amen. Pierre, l'Église grandissait. Écoutez bien ceci. Juste une autre preuve biblique de comment les priorités vont faire grandir votre Église. Pierre et les apôtres se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus continuer à servir aux tables, ils ne pouvaient plus continuer à faire toutes les choses quotidiennes de l'Église. Pourquoi ils devaient se consacrer à ce qui était vraiment la priorité? C'était d'enseigner et d'évangéliser. Et un jour, ils disent, OK, l'Église est rendue trop grosse, il faut changer la façon dont on fait l'Église. Et ils ont mis des diacres en place, des hommes de Dieu, des Étienne, des Philippe, qui étaient des hommes incroyables. Moi, si un qui m'impressionne dans la Bible, c'est Philippe. Hey, moi, être transporté là, du désert à une autre ville, c'est mon rêve. je ne sais pas. Si le Seigneur me permet de vivre ça, là, ce serait incroyable. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont décidé, OK, on va mettre des gens en place, vous allez faire ça, nous, on va continuer à s'occuper de notre priorité. Écoutez bien ce qui est arrivé. Trois choses. Un, l'Évangile a continué de se répandre. Ils ont arrêté de faire des choses qui n'étaient pas importantes et l'Évangile a continué de se répandre. Le nombre de disciples à Jérusalem a augmenté et des leaders clés ont été convertis. Pourquoi? Ils ont dit, OK, c'est assez, on est rentré dans un mur, on ne peut plus tout faire, on prend nos priorités, vous faites ça, vous devenez des nouveaux leaders, des Étienne qui se lèvent, des Philippe qui se lèvent. Mais je vais dans l'Église, vous allez prendre vos priorités, faire vos priorités, et il y a des Philippe et des Étienne qui vont se lever dans votre Église. Amen. Parce que je laisse de la place aux autres leaders pour qu'ils prennent leur place et qu'ils prennent leur envol. Alors la priorité, c'est vraiment, vraiment important. Qu'en est-il des distractions et des obstacles? Rejetons les obstacles. Je vais juste aborder quelques instants, parce que là, je vous parle depuis tantôt de prioriser. Là, on va le faire, OK? C'est correct? C'est une bonne idée? OK, merci pour cet homme de foi, amen, qui a dit oui. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a deux secrets au leadership. C'est un, vous pouvez l'écrire, le moins que tu fais, le plus que tu accomplis. Le moins que tu fais, le plus que tu accomplis. Et deux, le moins que tu fais, le plus tu permets aux autres d'accomplir. C'est une clé extraordinaire. Le moins que tu fais, le plus tu permets aux autres d'accomplir. Et la première, c'est le moins que tu fais, le plus que tu accomplis. Le mythe dans tout ça, c'est qu'on croit ou on pense que le pasteur doit tout faire. Et je ne sais pas pour vous, mais nous, on a été élevés, on a vraiment un background catholique, et on regarde au pasteur comme l'évêque de l'Église. Et il fait tout, il doit répondre à tout. C'est lui qui chante, c'est lui qui pense la communion, c'est lui qui conduit les chants, c'est lui qui joue le piano, c'est lui qui répond à la porte, il fait le ménage, il fait tout. Après tout, on le paye pour ça. C'est lui qui est payé. Fait qu'il doit tout faire. Je crois que c'est un mythe qu'il faut refuser et détruire. Je crois qu'on est appelé à faire ce que Dieu nous appelle à faire et former des gens autour de nous. Nous devons identifier le plus possible nos priorités. Il y a trois obstacles à la pensée de ça. Il y a quatre obstacles. Vous pouvez les écrire. Un, c'est la quête d'équilibre. Quatre obstacles à la pensée de juste faire ce qu'on est appelé à faire. Okay? Quatre obstacles à la pensée de prioriser ce qu'on est appelé à faire, à prioriser nos dons. Un, c'est la quête d'équilibre. Parce que... La quête. La quête. Pas la quête, la quête. C'est ça que j'ai appris ici en France avec Philippe. C'est que vous parlez avec la bouche ouverte comme ça. La quête. Et nous, on parle avec la bouche comme ça. La quête. J'ai tout compris la différence. C'est vraiment pas compliqué. Je sais pas où ça s'est perdu dans l'Atlantique, mais entre ici et là-bas, ça s'est perdu. C'est passé de là à là. Alors, la quête. La quête de l'équilibre. La quête. La recherche. Hey, on dirait que je viens d'ouvrir votre pensée là, d'une façon exponentielle. Là. On dirait que tout le potentiel de votre cerveau de me comprendre vient d'être élargi au maximum. OK, je vais essayer l'accent français. Nous devons identifier... Vous riez parce que vous savez que c'est votre accent, c'est ça le pire. Bon, on revient au Québec, la quête. L'idée, c'est qu'on pense que les leaders doivent être bons partout. Et c'est faux. Le leader n'est pas obligé d'être bon partout pour être un bon leader. Il a besoin d'être bon à ce qu'il fait et mettre d'autres personnes bonnes à ses côtés. Sinon, on ne développe pas le potentiel. L'idée, c'est que découvre ta zone de potentiel à toi, découvre ta zone de don à toi et laisse les autres rentrer dans leur zone aussi. Ayez pas peur de la compétition. C'est pas de la compétition. Deuxième obstacle, c'est on manque de faire la différence entre l'autorité et la compétence. Un manque de faire la différence entre l'autorité et la compétence. Parce que je sais pas pour vous, mais moi je suis en autorité, mais je suis pas compétent à tout. Et un mauvais leader va penser qu'il est bon à tout et va s'initier dans des choses. Il va s'initier dans des choses qu'il n'est pas compétent juste parce qu'il y a de l'autorité. Si vous avez de l'autorité, vous êtes le leader principal, prenez votre autorité, mais apprenez à ne pas vous mettre le nez dans les choses que vous n'êtes pas compétent. Laissez les gens compétents gérer. Vous, faites juste avoir des... Ça ne se dit pas des feedbacks, là, mais des retours Prenez le retour des pensées des gens, prenez les conseils, mais n'allez pas vous mettre le nez dans les choses où vous n'êtes pas compétent. Vous allez tout bousiller. Vous allez tout bousiller. Ça se dit, ça, bousiller?
Oui.
Bousiller. 3, l'incapacité de voir la différence entre la compétence et la non-compétence. Être capable d'avouer nos faiblesses. Je ne suis pas bon à ça, mais je te fais confiance. Je ne suis pas capable de le faire, mais je vais te laisser. Être capable d'identifier nos compétences et nos non-compétences. Le manque ou l'incapacité plutôt de voir la différence entre la compétence et la non-compétence. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire de quelqu'un qui pense qu'il est bon à tout puis qu'il ne le sait pas. Ça, là, pour un pasteur, il n'y a rien de pire que ça. Tu sais, le gars qui pense qu'il est bon à tout puis qui fausse, la personne qui est bon au système de son puis qui n'est pas capable de tourner un bouton dans le bon sens. Mais ils savent. Ils pensent, ils croient du plus profond de leur tête qu'ils sont bons à tout. Ils seraient les meilleurs diacres. Ils prêcheraient mieux que toi. C'est dur de gérer des gens comme ça. Écrivez ceci, vos faiblesses sont l'opportunité pour quelqu'un d'autre. Vos faiblesses sont l'opportunité pour quelqu'un d'autre. Et 4, le manque de vouloir développer d'autres leaders. Des fois, on a un manque de vouloir de développer l'autre leader. Je peux-tu vous faire face à une réalité? Un jour ou un autre, quelqu'un va vous remplacer. Un jour ou un autre, quelqu'un va vous remplacer. Que vous le vouliez ou que vous ne voulez pas, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, quelqu'un va vous remplacer. Vous avez deux choix. L'ignorer et laisser les choses arriver comme ça, ou penser pour le futur et avoir un rôle à jouer dans qui va vous remplacer, dans qui va prendre la place, parce que et d'investir dans la jeune génération. Si vous n'êtes pas intentionnel, vous allez mourir sans laisser d'héritage, frères et sœurs. Et je ne parle pas de sous ici. Je parle d'avoir élevé en arrière de vous des Élisées, des Josué, une nouvelle génération, des disciples qui vont servir Dieu à votre place. Amen. Alors, investissez. OK, on avance. Le principe 80-20, et ça, c'est... Non, je recule. OK, je recule. Je recule. Je vais vous faire poser une question qui n'est pas dans le livre, mais moi, je vais vous la poser. Quelles sont les 2-3 choses que vous, et seulement vous, en êtes responsables et que vous êtes doués à la faire? Identifiez les 2-3 choses que vous êtes vraiment bon à faire, que c'est votre responsabilité à vraiment faire. Quelles sont, moi, je vais vous, par exemple, ma première priorité, c'est communiquer la parole de Dieu. En tant que pasteur, à part la présence de Dieu, pendant ce temps, ma première priorité, chose à faire, c'est communiquer. Deuxième chose, c'est élever des leaders. Qu'est-ce que vous êtes bon à faire? Peut-être c'est d'autres choses pour vous. Peut-être que vous êtes bon dans la technique. C'est qu'est-ce que vous êtes bon à faire? C'est vos 2-3 priorités. Écrivez-le, puis après on va en discuter. Quelles sont vos 2-3 choses, 4 choses peut-être, que vous êtes vraiment bon à faire? Vous savez que c'est les dons, les talents, l'appel que Dieu a mis sur votre vie, qui sont la priorité. Je vous laisse quelques instants. À ce moment-ci, peut-être qu'il y a des gens là, que vous allez découvrir ce qui est vraiment votre priorité. C'est ça ma prière. Et ce moment va être un réma pour vous présentement. Bang! Wow, c'est ça que Dieu m'appelle à faire. C'est ça qui est mes priorités. Et vous allez devenir efficace comme pas possible. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais pas possible. Comme possible, mais pas possible. Vous allez devenir vraiment efficace. Un réma. Seigneur, je te prie juste pour un réma présentement des priorités de Dieu sur leur vie, Seigneur. Juste un réma, Seigneur. Une révélation des dons, des priorités, Seigneur. Quelles sont les 2, 3, 4 choses, Seigneur, que ces gens ici sont bons à faire, qui sont doués à faire, que tu appelles à faire? Un jour, j'ai dû prioriser le ministère.
Je savais que depuis l'âge de 17 ans, j'avais un appel sur ma vie de rentrer dans le ministère, de prêcher la parole de Dieu. Mais aussi, à l'âge de 17 ans, j'étais un des meilleurs joueurs de baseball du Québec, la province du Québec. Et j'étais un lanceur gaucher, pour ceux qui savent c'est quoi un peu le baseball, j'étais un lanceur. Et d'un des lanceurs gauchers, ça n'existe presque pas. Alors quand tu es lanceur gaucher, tu as déjà un avantage sur les autres. Et j'étais un des meilleurs, fait tous les tournois provinciaux, fait un camp d'entraînement pour les Expos de Montréal. Alors c'était vraiment mon rêve. Et même en tant que chrétien, juste l'idée de pouvoir être dans une ligue nationale, puis être chrétien, pouvoir témoigner, c'est encore plus un rêve. Et à l'âge de 22 ans, Seigneur, il dit, t'as le choix. Il dit, j'ai un appel sur ta vie, mais il va falloir que tu lâches le baseball. J'aimais le baseball. C'était mon plaisir dans la vie. Depuis l'âge de 5 ans, je ne jouais qu'au baseball. Et Dieu m'a dit un jour, il dit, t'as le choix. J'ai un appel sur ta vie. Et tu vas rentrer dans le ministère le jour que tu vas lâcher le baseball. Et grâce à mon épouse, qui m'a rappelé ce que Dieu me disait. Mais à l'âge de 22 ans, j'ai lâché le baseball. Et l'été d'après, j'avais une jeunesse de 70 personnes, comme je vous ai dit, qu'on avait commencé, moi et mon épouse. La priorité. Aujourd'hui, si je n'aurais pas priorisé le ministère, je ne sais pas où je serais. Peut-être que je serais encore en train de lancer des balles de baseball dans une ligue de garage ou dans une ligue de moindre, juste parce que je me suis accroché à mon rêve qui n'était pas le rêve de Dieu pour ma vie. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui sur les lignes de côté parce qu'ils se sont accrochés à un rêve qui n'était pas le rêve de Dieu pour leur vie. Parce qu'ils ont manqué de prendre le choix et de prioriser qu'est-ce qui était la volonté de Dieu. C'est important. C'est important. Vous savez qu'on a tous des carrefours dans la vie. On arrive toujours à des moments où on a des carrefours dans la vie. Et ces moments sont vraiment des moments décisifs qui nous vont rapprocher de la volonté de Dieu. Ou qui vont nous éloigner de la volonté de Dieu. Et c'est la priorité, la prise de décision qui nous y amène. OK, le principe 80-20, c'est vraiment important. Il est quelle heure, Philippe? Il est quelle heure? Disons, quand on a jusqu'à 11h, parfait. Le principe 80-20 est celui-ci, et c'est vraiment un bon principe. C'est juste l'idée que dans toutes les choses que vous avez à faire, si, je vais vous le mettre bien simple, vous lirez après, je vais vous le mettre au plus simplifié que pas, OK? Mettons que vous avez 10 priorités dans votre vie, OK? Vous avez 10 priorités dans votre vie. Si vous êtes capable de les prioriser en ordre de priorité principale à la moindre des priorités, vous allez réaliser que les deux premières priorités vont vous donner 80% des résultats au bout du compte. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez 10 priorités, prêcher la parole, enseigner les leaders, visiter des gens. 10 priorités comme ça. Vous descendez, la dernière, c'est perdre du temps sur l'Internet, OK? Si vous êtes capable de mettre un ordre de grandeur sur vos 10 priorités, vous allez vous apercevoir que les deux premières priorités vont vous apporter 80% de tous vos résultats. C'est pour ça que c'est important d'être capable de mettre les priorités à la bonne place. Un autre exemple, si vous avez 100 personnes dans votre église, imaginez-vous que vous avez 100 personnes dans votre église, et si vous mettez un chiffre, juste pour exemple, vous regardez à vos gens, voici mes gens talentueux, voici mes gens potentiels, voici mes gens qui ont... Si vous mettez les 20 premières personnes que vous savez qui ont du grand potentiel pour être développées pour le leadership, ces 20 personnes-là que vous investissez dedans vont vous apporter 80% de tous les résultats que vous faites dans votre église, dans votre organisation, au travail séculier. C'est un principe qui est très simple, mais qui en même temps, qui nous fait vraiment, vraiment réaliser l'importance de ce qu'on fait. Même il dit ici, le temps, 20% de votre temps va vous amener 80% des résultats. 20% des gens prennent 80%. Le conseil, 20% de votre temps va prendre... 20% des gens prennent 80% de votre temps. Pasteur Paul même, il l'a dit, je pense, vendredi, la première session. Investissez dans les 20% des gens qui vont vous leader et c'est ces gens-là qui vont vous amener 80% de votre temps. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la différence en réalisant, est-ce que vous êtes des équipeurs ou vous êtes des conseillers? Si vous êtes des équipeurs, vous allez passer du temps avec les 20% de vos leaders, vos gens de tête, et eux vont faire le reste. Si vous êtes un conseiller, vous allez passer avec 80%, avec le temps, avec le 80% des autres. Parce qu'eux autres, ils ont des problèmes, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de jaser, ils ont besoin d'ouvrir leur cœur, puis c'est correct aussi. Il s'agit de déterminer en tant que leader, est-ce que vous voulez quelqu'un qui équipe ou quelqu'un qui conseille? Si vous voulez équiper, passez du temps avec 20% de vos gens. Si vous voulez conseiller les gens, passez du temps avec la dernière tranche de 80%, ça dit bien. Alors, c'est vraiment important. Je vais vous donner quatre trucs pour développer une équipe qui comprend ce principe-là, OK? Quatre trucs. Faites une liste des gens clés dans votre assemblée et écrivez ce que vous pensez ou percevez de leur valeur primaire pour votre organisation. C'est simple. Faites une liste de vos gens clés dans l'Église, les gens, et découvrez la valeur principale pourquoi qui sont importants pour vous. Quel est leur don primaire à eux? Faites un inventaire des gens autour de vous. Ensuite, regardez à leur définition de tâche. Est-ce qu'ils sont en train de faire ce qui est vraiment leur don primaire? Regardez aux gens qui sont autour de vous, déterminez leur qualité principale, leur don principal, et ensuite, regardez à leur définition de tâche. Est-ce qu'ils sont en train de faire ce que Dieu les appelle à faire? Ou sont en train de poireauter, ça se dit-tu ça? Oui? Poireauter. Deuxième chose, encouragez vos leaders de réécrire leur définition de tâche en focusant sur leur but et ce qu'eux autres sentent qu'ils doivent faire. Demandez à vos leaders de réécrire leur définition de tâche. Est-ce que vous faites ça ici en France, des définitions de tâche pour les gens? Définition de poste? De fonction, OK? Il faut que vous compreniez ce que je dis. Parce que c'est vraiment important, parce que c'est comme ça qu'on peut canaliser et prioriser ce que les gens vont faire. La deuxième, encouragez vos leaders de réécrire leur définition de tâche en focusant sur le but et sur leurs dons et leurs talents. Et troisièmement, je vais combler les deux derniers points, c'est diriger vos gens dans des discussions et créer des opportunités pour qu'ils puissent parler ensemble et découvrir ensemble quels sont leurs dons, se valoriser ensemble. Parce qu'avoir les bonnes personnes au bon endroit, c'est clé pour le succès de votre organisation ou votre église. Tu veux que je répète cette phrase-là? Avoir les bonnes personnes à la bonne position est essentiel pour le succès de votre église ou de votre organisation. Ah, le troisième? Dirigez vos gens clés dans des discussions et créez des opportunités pour que ces gens-là puissent utiliser leurs habilités. Amenez vos gens dans des discussions pour qu'ils découvrent leurs dons ensemble et créez des opportunités qu'ils puissent utiliser leurs habilités. Pourquoi c'est important de se poser les questions comme ça avant? C'est parce que quand tu mets quelqu'un en place, puis c'est pas sa place, c'est-tu difficile des envies de leur place? Hein? Il n'y a personne qui aime ici. Et la plupart d'entre vous a été probablement blessé dans l'église parce qu'un jour, vous étiez à une place et quelqu'un a dit « c'est plus votre place ». Ils vous ont enlevé de votre place. Et c'est comme ça qu'on blesse les gens. Puis dans le fond, c'est-tu vraiment la faute des gens ou c'est nous la faute en tant que leader qu'on n'a pas réfléchi assez, qu'on n'a pas réalisé c'était quoi vraiment le don des gens. Et là, on les met dans une position et finalement, ils commencent à aimer ça, mais tu t'aperçois que ce n'est pas leur don. Et là, tu es obligé d'essayer de leur faire réaliser que finalement, ce n'est pas ta place. Mais notre rôle à nous en tant que leader, c'est penser en avant de ça et réfléchir. Et si je veux mettre quelqu'un dans tel ou tel endroit, est-ce que c'est vraiment sa place? Est-ce que c'est vraiment ses dons? S'il n'aime pas les enfants, mettez-les pas dans l'école du dimanche. On se comprend? Alors, c'est simple ce que je vous dis, mais c'est très spirituel. Ça va vous donner beaucoup plus de facilité à faire diriger votre église. OK, on avance. On avance. Les leçons tirées du principe 80-20. Non, j'ai mis les 3 puis 4 ensemble. Dirigez vos gens dans des discussions et créez des opportunités. Je vous ai joint un tour. Ça me fait plaisir. C'était juste voir si vous étiez réveillé et vous suiviez. Êtes-vous en forme?
Oui.
Levez les deux bras comme ça dans les airs une seconde. Non? Faites-les bouger. Faites-les bouger. Yes, tapez sur la tête. Non, non. Bon, juste pour faire circuler le sang un petit peu là matin. Il fait chaud dans la salle. C'est-tu moins que chaud, hein? C'est ça. OK, on y va rapidement. 7 points. Il faut avancer. Activité n'est pas égale à accomplissement, frères et sœurs. On en a parlé un petit peu tantôt. Votre but n'est pas de rester occupé, c'est de rechercher les personnes et les lieux les plus sages pour y investir votre temps. Activité n'est pas égale à accomplissement. C'est pas parce que votre cédule est pleine que vous êtes efficace. All right? Deuxièmement, travailler plus intelligent et non durement. C'est pas être paresseux d'essayer de travailler plus intelligent. Comme j'ai dit tantôt, des fois on pense qu'on est perdu, on essaie de courir plus vite, on fait juste s'essouffler plus. On peut-tu arrêter, se poser des questions? J'ai raconté cette histoire à Dijon. Vous connaissez Jean-Claude Kelly ici? C'est un des héros nationaux, je crois. Et Jean-Claude Kelly était un très bon skieur quand il était jeune. Il était sur l'équipe nationale et il a réalisé qu'il travaillait très très fort, s'entraînait, faisait des pompes. Vous êtes ça ici, des pompes. Il courait, il faisait des poids et haltères, il voulait être le meilleur, il courait pour être plus vite. Mais il s'est aperçu que les autres skieurs faisaient la même chose que lui. Qu'eux autres aussi faisaient des pompes, eux autres aussi ils couraient. Alors il réalisait que même s'il essayait de faire plus, il ne pourrait pas vraiment les battre plus que les autres parce qu'ils mettaient le même effort. Alors Jean-Claude Kelly il a fait différemment. Il a dit, je vais essayer de voir si on peut changer la façon dont on fait du ski pour voir si on pourrait améliorer. Et dans ce temps-là, la technique, c'était de coller les pieds ensemble et d'avoir le poids par en avant pour faire du ski. Et Jean-Claude Kelly, lui, a réalisé que s'il mettait ses deux pieds un peu plus décollés et s'il mettait son poids par en arrière à la place, il augmentait sa vitesse. Bien, vous savez très bien que dans les Olympiques, dans les années 70, quelque chose comme ça, il a gagné 3 médailles d'or aux Olympiques. Il n'a pas travaillé plus fort. Il a travaillé fort, mais il a travaillé beaucoup plus intelligemment. Et ça lui a donné un résultat que les autres n'étaient pas capables d'avoir. Ah, c'est épuisant, là! Il a juste changé la façon de faire. Et dans nos églises, la définition de la stupidité, c'est de faire toujours la même chose puis s'attendre à un résultat différent. All right, on continue. Organiser ou agoniser? Est-ce que c'est vous qui contrôlez votre cédule ou c'est les autres qui contrôlent vos cédules? Quand les autres contrôlent vos cédules, planning. Là, je suis déçu, là. Parce que planning, c'est anglais, là. Planning. Juste pour vous faire plaisir, on va utiliser... Est-ce que vous réalisez que c'est nous, les Québécois, qui parlent le vrai français? Oui, oui. Mais c'est québécois. C'est québécois. C'est québécois. Mais je ne m'ostine pas, vous êtes en position de force présentement, OK? Alors, organisez, c'est qui contrôle votre emploi du temps? Merci. Paix et joie. Faites le bilan ou stagnez. Est-ce que vous faites le bilan de vos choses? Est-ce que vous faites le bilan de vos activités? Merci beaucoup. Avant, mon pasteur ne faisait pas, et depuis que j'ai pris place à l'église, à tous les mardis, on se rencontre, mon staff meeting, et on se critique gentiment sur qu'est-ce qui s'est passé durant la fin de semaine. Est-ce que j'ai bien prêché? Est-ce que j'avais des points qui étaient clairs? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Si on ne se pose jamais ces questions-là, les amis, on va continuer d'avancer dans le néant, sans s'améliorer. Mais pourquoi l'Église n'avance pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Bien, pourquoi on ne s'assied jamais, on ne s'assoit jamais pour poser des vraies questions? Et laissez-moi vous dire qu'on en pose des vraies questions. Mais l'Église, en 6 mois, a avancé plus que dans les 6 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on se pose des vraies questions. Et quand on arrive à un point qu'il faut dire, OK, ça ne fonctionne pas, bien, on est assez honnête pour dire soit qu'on le met de côté ou soit qu'on le transforme et on l'améliore. C'est vraiment important. Vous allez voir, vous allez augmenter l'accélération dans votre église et dans votre ministère. Il y a un cellulaire qui... Deuxième chose, planifiez vos priorités. On en a parlé. Quelles sont vos priorités dans la journée? Et faites ces priorités-là. Même si vous ne feriez pas tout, si vous avez fait vos priorités, vous avez fait 80% des choses qui étaient les plus importantes. Alors que le 20%, on peut peut-être l'oublier un petit peu ou le remettre à demain. Réagir, ce n'est pas diriger. Et pourquoi qu'on évite de réagir? C'est quand on priorise et quand on planifie d'avance, on évite de réagir. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, si on fait quelque chose, quelles pourraient être les avenues après? Qu'est-ce qui pourrait être les mauvaises choses qu'on a faites? Posez-vous la question d'avance, parce que quand on réagit, souvent, ça sort mal. Êtes-vous d'accord avec ça? Quand ça réagit, on prend des décisions rapides, et il y a des bonnes chances que ce soit la mauvaise décision. Ou si c'est la bonne, elle risque d'être moins bien faite ou moins bien planifiée. Vous me suivez? OK, on avance. Dites non aux choses de moins d'importance. Ah, ça, c'est pas toujours facile de dire non. C'est facile à l'âge de 2, 3, 4 ans de dire non. Hein? Nos enfants passent par la passe du non. Hein? Va te coucher? Non. Fais tes devoirs? Non. Ramasse tes choses? Non. Mais quand on arrive en tant qu'adulte, des fois, on tombe dans l'idée qu'on veut plaire aux gens, on ne veut pas déplaire aux gens. Et les gens vont dire, je peux-tu te rencontrer? Mais ce n'est pas la priorité. On dit oui. Et on se fait voler nos choses. Alors, être capable de dire non. Il nous donne quelques trucs pour être capable de dire non. Et l'idée, c'est dire non à l'idée, mais à la personne. On ne veut pas dire non à la personne. La personne a peut-être des bonnes idées. C'est peut-être une bonne idée qu'elle vous rencontre. C'est pas un non à la personne, mais présentement, j'ai d'autres choses qui sont plus importantes. Répondez dans l'intérêt de la personne qui fait la demande. Dans le sens, validez leur idée. Validez ce qu'ils vous disent. Portez intérêt à ce qu'ils vous disent, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui, par exemple. Et 3, différer avec créativité et chercher une alternative. Pour la semaine passée, j'ai eu à utiliser ces 3 techniques-là. Je demande à ma jeunesse de faire une pièce de théâtre pour Pâques. Ils m'écrivent une super de belle pièce de théâtre, 20 pages. Mais en lisant l'histoire, je m'aperçois que sont vraiment à l'effort dans la théologie, dans leur pièce de théâtre. Et il y a des petites failles dans leur histoire. Il y a un manque de, cohésion. Merci pour ce beau mot. Il y a un manque de cohésion dans l'histoire. Et j'ai dit, un, ton histoire, là, je te félicite. Vous avez mis un grand effort dans ce que vous avez fait. Il y a du travail exceptionnel. Et vous êtes des jeunes, et je suis encore plus important de les valoriser, pas leur dire, ouais, mais finalement, c'est pas bon, là, tu sais. Puis t'es détruit, puis après, il veut plus te faire de pièces de théâtre. C'est pas ça le but. Mais il faut que je dise non, parce que si je mets ça un dimanche matin, là, mes gens, je pense qu'ils vont venir me voir après réunion, là. Fait que j'ai dit deux choses. Un, j'aime ta pièce, mais je pense pas qu'elle rentre dans un contexte de dimanche matin pour Pâques. J'ai dit, un, faut que tu changes les problèmes qu'il y a là. Alors, tu fais face. Mais deux, c'est pas qu'on la fera pas. Plutôt, on va la déplacer. Puis on va faire une grande soirée d'évangélisation le vendredi soir avec la jeunesse. On va inviter les gens parce que ça fit plus là. Alors, j'ai pas dit non à la pièce, mais j'ai tout mis en place pour que ça soit un vrai succès dans l'endroit où elle devait être. Mais j'ai dû dire non. J'ai dû dire, retravaille ta pièce, retravaille ton texte, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, on ne dit pas non aux gens, on ne dit pas non aux idées, on ne dit pas non aux gens plutôt, mais des fois, on dit non aux idées. All right? Rapidement. C'est très technique, et ce que c'est écrit là, ça dit ce que ça dit, alors je vais juste le lire et vous pouvez écrire, OK? Il n'y a pas grand-chose à... C'est comment mettre à profit votre temps. Un, faites une liste de choses à faire. C'est pas compliqué. Et je peux-tu vous encourager à d'autres choses? Faites une liste de choses à ne pas faire. Parce que souvent, on augmente nos listes de choses à faire. Ah oui, il faut que je fasse ça, mais il faut que je fasse ça aussi. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça aussi. Puis, oh non, non, ça, je ne peux pas manquer ça. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et finalement, notre liste de choses à faire, là, est grande de même. Moi, je vous encourage, faites une liste de choses à ne plus faire. Et faites-les faire à quelqu'un d'autre pour garder vos priorités. Sinon, vous allez juste vous épuiser plus. Définissez vos priorités. On en a parlé, alors. C'est pas plus compliqué. Définissez vos priorités. Évitez le perfectionnisme. On peut désirer l'excellence, mais pas le perfectionnisme. Un moment donné, c'est assez. Assez, c'est assez. Sinon, on tombe dans l'abus de juste vouloir faire les choses pour que ça soit parfait. Qui sait qu'il n'y a personne de parfait ici? Il n'y a personne de parfait ici. L'idée, c'est d'offrir le mieux qu'on peut à Dieu, de donner notre maximum. Mais si on tombe dans le perfectionnisme, on s'épuise encore une fois. Questionnez tout. Posez des questions. Est-ce que c'est important de faire ça? Est-ce que ça doit être fait? Est-ce que c'est la priorité? Posez des questions. 5. Accueillez la tension. La tension. T-E-N-S-I-O-N. La, espace, tension. Tension, la tension, frères et sœurs, la tension. Tension. Accueillez la tension, là. Pardon? Oui, la tension, c'est du stress. Peut-être vous dites ça ici, du stress, c'est mieux. Accueillez le stress, c'est ça que ça veut dire. Il y a des moments que il y a des choses qui arrivent et il faut le faire, là. Accueillez ce stress-là. Accueillez la tension. Il faut faire attention de ne pas vivre dans le dernier moment non plus, mais quand ces moments-là arrivent, accueillez-le. Parce que sinon, le stress va vous paralyser. Pasteur Paul m'a joué le tour la dernière fois de prêcher à sa place 10 minutes avant que la réunion commence. Je t'aime, Paul, je t'aime, je t'aime. Et j'ai deux choses à faire, me laisser paralyser ou juste accueillir l'attention. Et ce que je ne peux pas contrôler, je le laisse à Dieu. Seigneur, fais-le. Moi, je ne peux pas le faire. 6. Évitez le désordre. On en a parlé tantôt d'avoir votre bureau clean, vos choses. Clean, ça ne se dit pas ça, mais. Clean? On n'est pas aux États-Unis, là. Et 7. Évitez la dispersion, de trop faire de choses. Et finalement, ben, c'est ça qui va arriver. Vous allez disperser un peu partout. Évitez la dispersion. Je Peux-tu vous donner trois choses que le leader doit absolument céduler? Peux-tu vous dire quatre choses? Vous êtes prêts? Un, le leader doit absolument céduler du temps non pressé avec Dieu. Comprenez ce que... C'est pas planifier... Oui, excusez. Le leader doit absolument planifier du temps non pressé avec Dieu. Du temps de qualité avec Dieu. Merci. Doit absolument planifier, sinon vous allez faire voler de ce temps-là avec Dieu. Comprenez-moi bien, là. Moi, j'aime l'idée qu'on peut vivre dans la présence de Dieu 24 heures sur 24, là. Je crois que Dieu nous parle 24 heures sur 24 et Dieu n'est pas limité à notre une demi-heure, 10 minutes, 20 minutes, une heure le matin, là. Dieu est là partout, il nous parle partout, il est avec nous partout, à n'importe quel moment, mais je crois qu'il y a toute une dimension que quand je prends du temps de qualité avec Dieu ou que je t'intime avec lui ou qu'il n'y a aucune distraction, qu'il y a une dimension puissante qui s'installe. Amen. Vous devez absolument planifier régulièrement du temps de qualité avec votre famille. Planifiez régulièrement du temps de qualité avec votre famille. Le leader aussi doit planifier régulièrement du temps pour sa santé. Prendre soin de lui. J'ai un petit peu d'effort à faire là-dessus. Et quatrièmement, le leader doit planifier du temps pour les gens aussi. Du temps pour des gens, pour les amitiés, pour rencontrer des gens. Oh, il en restait trois l'autre bord. Tu n'as pas vu. On continue. Numéro 8, contrôler les interruptions et les distractions. Moi, savez-vous que ce que je fais le matin, le plus possible, là, je ne dis pas que je suis parfait, c'est que je n'ouvre pas l'Internet, je n'ouvre pas les courriels. Alors, parce qu'un « ping », hein? Quand tu es en train de prier, puis tu as un « ping », il y a tout d'un coup une curiosité qui s'installe en dedans de nous, hein? Puis là, tu es là, « oh, Seigneur, hallelujah, c'est tellement bon, ping! » Et il y a une réaction automatique, ta main s'en va, hein? Puis là, tu essaies de la retenir, puis là, tu es déconcentré. Fait que le matin, quand je prépare mes messages, j'ouvre pas. Là, mon ordinateur est allumé, mais mon Internet est fermé. Mon courriel, ça se dit ça? Courriel? Mon courriel est fermé aussi, comme ça, j'ai pas de distraction. Puis là, à midi, j'ai emmené ma petite sandwich, puis mon petit verre de jus, puis à midi, je plug mes courriels, puis là, je peux lire mes courriels pendant l'heure du midi. C'est le fun, ça, hein? Faites-vous aider dans vos faiblesses. On en a parlé aussi. Trouvez les gens. Si vous n'êtes pas doué dans certaines choses, trouvez des gens qui vont vous aider dans vos faiblesses. Et dernièrement, utilisez un calendrier. OK, avant les questions, avant de vous faire parler, j'ai une petite illustration pour vous. Je ne pensais pas la faire. Je m'en suis rappelé hier. Sinon, j'aurais amené le matériel pour le faire. Mais il y a un jour, un grand professeur d'université en Angleterre, qui avait seulement une heure pour enseigner sur la gestion du temps à 15 des plus grands PTG de l'Angleterre. Tu connais cette histoire-là, non? Oui. Et il a amené un grand bocal vide. Il dit pas le punch, si tu le connais, mais il a amené un grand bocal vide et il a commencé à mettre des roches de la grandeur d'une balle de tennis dans le bocal. Et à la fin d'avoir rempli le bocal avec les grandes roches, il a dit au PDG, il a dit, est-ce que vous pensez que ce bocal-là est plein? Un grand bocal transparent avec des grandes roches, la grandeur des balles de tennis. Et les 15 PDG ont dit oui, le bocal est plein. Et le professeur a dit, OK, on va essayer une autre expérience. Et il avait amené des petites roches du galet ici, vous dites ça, hein, ici? Du gravier? Ah, OK, c'est la même chose aussi au Québec. Et il a amené du gravier et il commence à faire descendre du gravier sur les grandes roches. Et le gravier commence à s'infiltrer dans les grandes roches. Et il remplit un peu plus le... Ah, merci beaucoup. As-tu du gravier aussi? OK. Vous voyez l'image? Philippe, viens ici, Philippe. Vu que tu fais rien, là.
Merci.
je t'écoute. Hein.
Ah, ça, c'est bon. Et là, ils mettent du gravier. C'est beau, hein? C'est cute quand même. C'est pour jouer dans les jeux, ça. Et le gravier. Incroyable!
Ils sont tellement bien.
Mais vous aimez ça, les balles ici, hein, finalement? Et il y a d'autres petites. Gravier qui s'installe au milieu. Et là, il demande la question, est-ce que vous pensez que le bocal est encore plus plein? Et là, les PDG sont quand même intelligents à un moment donné. Ils commencent à voir le jeu. Et ils réalisent, ils disaient non, il n'est pas plein. Alors, il prend du sable et remplit son bocal de sable. Juste, et le sable, vous savez, c'est fin, ça se met partout. Il remplit le bocal et il demande encore, est-ce que vous pensez que le bocal est plein? Les PDG, là, ils comprennent le jeu. Ils disent non, le bocal n'est pas plein. Et le professeur met de l'eau dans le bocal qui fait vraiment taper tout et il y a encore de la place pour plus. Et le bocal, finalement, est vraiment, vraiment plein. Et là, il pose qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette illustration-là? Et après quelques minutes de réflexion, un des PDG répond ceci, il dit, quand ton agenda est plein, n'est pas vraiment plein parce qu'il y a de la place pour d'autres petites chose que tu peux mettre dans votre planning. Et le professeur, il répond, il dit non. Il dit, c'est pas ça la signification de l'illustration. Il dit, si tu mets pas tes grandes roches en premier, tu seras jamais capable de les rentrer. Si tu commences par l'eau ou le sable ou tes petites roches, le jour que tu vas être capable de, tu vas vouloir rentrer tes priorités dans ta vie, tu ne seras plus capable d'y rentrer parce que tu as commencé par le mauvais ingrédient. Fait que c'est une illustration bien, bien simple, mais qui font réaliser que si tu veux vraiment être sûr que ton agenda est bien rempli et tu veux être sûr que tu fais les priorités que Dieu t'appelle à faire, mets-les en priorité dans ton bocal. Et ensuite, les petites choses vont venir couvrir le reste. Amen? Fait que vous pouvez utiliser ça dans votre église. Je ne vous change rien. Trois questions et on va discuter. Il y a beaucoup de questions. Mais on va le faire les trois, OK? Parce que je veux vous faire discuter un peu. John Maxwell nous dit ceci. Pour évaluer et vraiment prioriser, première question, posez-vous, qu'est-ce qu'on s'attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend, c'est une petite liaison québécoise ici. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Dans le fond, la question que vous devez poser, c'est qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est votre tâche? Quelle est votre définition d'emploi du temps? Et qu'est-ce que vous choisissez de faire? Deuxième question que je veux vous poser, qu'est-ce qui donne le plus grand résultat dans les choses que vous faites? Qu'est-ce qui donne le meilleur résultat? Si vous faites des choses, ça ne donne pas de résultat, il y a peut-être le temps de réfléchir que ce n'est pas la bonne chose à faire. Si vous travaillez dur, mettez beaucoup d'efforts, il n'y a pas de résultat, peut-être c'est un temps de se poser la question si vous faites vraiment la bonne chose, OK? Et troisième chose, qu'est-ce qui vous récompense? Qu'est-ce qui donne le plus de récompense? Et je ne parle pas de salaire, je parle de qu'est-ce qui vous satisfait le plus quand vous le faites. Quand vous faites quelque chose, vous êtes aux anges. Vous êtes content, vous êtes heureux, ça vous satisfait. C'est vraiment ça qui bénit votre âme, qui bénit votre cœur. Alors, c'est les trois questions que je veux que vous répondiez. J'aimerais ça que vous mettiez en groupe de 4-5 personnes encore. Et après avoir répondu aux questions, vous puissiez vous en discuter pendant quelques instants. Parfait? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go!